Merci Antoine de Necher et bonsoir à tous. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Bon, Yvon, admettons que j'ai quelques millions planqués au Panama et qu'il faut que je place vite fait, enfin que je déplace. J'ai pensé à un truc. Je ne vais pas m'offrir une danseuse, mais pourquoi pas une dream team de gaillards à grosses cuisses pour flatter mon petit ego. Quelques gros chèques plus tard et me voilà à la tête d'une équipe de foot. Las, schéma classique d'un temps révolu. Aujourd'hui, quand tu te lances dans le foot, il faut acheter les joueurs, mais il faut aussi acheter les jouets et le bac à sable. Il faut faire construire un stade, il faut un centre d'entraînement, un centre de formation, et j'en passe. Ah ben, les petites économies, ça suffit plus. Et les investisseurs locaux sont plus de la partie. Tiens, regarde, l'OM est à vendre. Ben, je te parie que ce sera ni un fabricant d'anisettes, ni un pêcheur de sardines qui mettra la main à la poche. Bon, j'en fais quoi, moi, de mes millions du Panama? Je vais peut-être les placer au Luxembourg, non? On a des contacts là-bas. L'argent et le foot, rien de neuf sous le soleil, transfert et gros salaire alimentent toujours la chronique, à la mesure de la passion et de l'indignation qu'il suscite. Rien de neuf sous le soleil donc, sauf que ça tape plus fort et que le soleil vient souvent d'ailleurs. De Chine à Sochaux, d'Arabie Saoudite à Sedan, de Russie à Monaco et du Qatar bien sûr au Paris Saint-Germain. Des investisseurs qui se feraient volontiers passer pour mécènes, toujours plus riches et toujours plus gourmands, sûrement pas là pour la seule beauté du jeu, et qui transforment peu à peu les clubs en vastes entreprises avec leurs propres infrastructures. Stades, centres de formation ou d'entraînement, les clubs deviennent des bâtisseurs. Avant d'en parler tout à l'heure avec nos deux invités, Christophe Bouchet, ancien président de l'Olympique de Marseille, entre autres, aujourd'hui adjoint à la mairie de Tours, ainsi que du journaliste Étienne Moati, rédacteur à l'Équipe, nous partons tout de suite en région parisienne, où le PSG se cherche un petit coin de paradis pour son centre d'entraînement. Quand les Qataris ont repris le club en 2011, c'était avec l'ambition affichée d'en faire le meilleur club d'Europe. Encore raté pour cette année, alors il faut se donner les moyens. Frédéric Delaméa, est-ce que je peux vous laisser décrire le lieu où vous nous avez donné rendez-vous aujourd'hui, à 25-30 km de Paris?
Nous sommes dans le domaine de Grignon, et là nous sommes au pied du château de Grignon, un château Louis XIII qui a été construit en 1636 par le marquis de Grignon.
Briques et pierre calcaire.
Mais on voit surtout les briques, c'est ça qui fait la particularité du château Louis XIII. Et puis surtout un parc absolument magnifique. C'est une zone qui est classée d'ailleurs d'intérêt faunistique et floristique, qui s'étend sur près de 300 hectares clos de murs, avec une petite rivière qui serpente au milieu, avec une forêt, avec toutes les merveilles que la nature peut nous offrir.
Vous connaissez Frédéric Delaméa, l'expression journalistique qui consiste, pour donner la mesure et l'ampleur d'un site, à donner l'équivalent en terrain de football. Alors combien de terrains de football est-ce qu'on pourrait faire entrer dans ce parc de Grignon?
Trop de toute façon, puisque ce n'est pas l'endroit pour faire des terrains de football. C'est le temple de la nature, ça ne doit pas être le temple du sport. Chaque chose a sa place et tout ira bien.
Le PSG parle de, alors parfois 13 terrains de foot, 18 terrains de foot. À quoi ressemble en tout cas le projet tel qu'il a été présenté par le fonds d'investissement qatari qui est le propriétaire du PSG et qui a donc des vues sur ce terrain?
Alors les informations que l'on a viennent du cahier des charges qui a été établi par le PSG, que le PSG lui-même n'a pas rendu public, mais qui a été consulté par des journalistes. Ils ont indiqué que l'objectif du club était de construire un centre de la performance, donc un centre d'entraînement et un centre de formation, qui rivaliserait avec les plus grands centres d'entraînement de Manchester, de Madrid, de Barcelone, de Milan, ce qui signifie effectivement entre 10 et 20 stades de football, ce qui signifie une académie de formation, ce qui signifie un centre pour les joueurs, remise en forme, repos, logement, nourriture, bain à bulles, toutes sortes de choses qui feraient qu'en réalité, Grignon serait bétonné.
Vous, Frédéric Delamay, vous êtes militant, membre du collectif pour le futur du site de Grignon. Quel est pour vous le problème principal? Est-ce que, voilà, je pourrais vous soupçonner par exemple d'être un supporter de Lyon ou de Marseille?
Moi, je n'ai rien contre le PSG. Je reconnais que ce club est un très grand club qui peut légitimement aspirer à avoir un centre de formation qui soit à la mesure de ses ambitions. Mais on lui propose d'autres endroits qui sont parfaitement adaptés, du côté de Poissy, du côté de Saint-Germain-en-Laye. On les réclame. Ils veulent venir ici. Pourquoi? Alors qu'on est dans une zone naturelle, patrimoniale, mémorielle, scientifique. C'est ça mon problème et le problème des gens du collectif.
Alors vous, Sophie Sauter, vous êtes élue locale à la municipalité de Bennes, juste à côté de Grignon, commune limitrophe. Alors comment vous avez appris les vues du PSG sur ce terrain?
Alors j'ai honte, mais au départ, enfin ça fait en réalité plus d'un an que j'ai entendu parler de ce projet. Et de même qu'il y a des légendes urbaines, moi j'ai pris ça pour une légende rurale. Grignon a 1080 habitants. Donc la mesure entre le projet pharaonique et le site et le territoire auquel il appartient ne sont pas compatibles. Je n'ai absolument pas prêté foi à ce projet. J'ai cru que c'était un fantasme d'élu. Enfin voilà, c'était une rumeur comme il peut en courir parfois. Plus elles sont extravagantes, plus on y croit. Et c'est vrai que quand ça commence à apparaître vraiment dans la presse comme un projet sérieux, là j'ai compris que c'était pas une rumeur. Et que c'était réellement envisagé avec sérieux. Et c'est ce qui a motivé mon engagement.
Ceci dit, la mise en vente de ces terrains n'a pas été annoncée officiellement. Vente donc de 300 hectares à peu près. Or, ce sont des terrains qui appartiennent à l'État. Et dans le cadre d'une cession ou d'une vente, en général, la procédure habituelle, c'est que l'annonce apparaît au journal officiel. Frédéric Delamay.
C'est effectivement ce qu'on souhaiterait. En réalité, tout se fait en catimini. Officiellement, rien ne se passe. Quand on interroge les domaines, il n'y a pas de proposition de mise en vente. Quand on interroge la préfecture de région, il n'y a pas d'acheteur qui soit manifesté. Tout le monde sait qu'il n'en est rien. Et en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est une construction juridique qui va permettre de faire en sorte que le domaine ne soit plus un domaine de l'État, qu'il devienne la propriété de l'école. Et l'école, dans le cadre de la loi sur les universités et leur autonomie, pourrait vendre de gré à gré, comme un simple particulier, à un acheteur, par exemple le PSG.
Quand vous dites l'école, vous parlez d'AgroParisTech.
Oui, l'école AgroParisTech qui est la grande école française d'agronomie, puisque il ne faut pas oublier que Grignon, c'est un site historique pour l'agronomie française, qui depuis 1827 abrite toute la formation agronomique française. Et aujourd'hui encore à Grignon, il y a la première année de formation d'AgroParisTech. Si on a établi ici l'école d'agronomie au XIXe siècle et si elle s'est maintenue depuis 200 ans presque, c'est parce que le terroir est unique. Il y a ici, et ça les géologues l'expliqueraient mieux que moi, une structuration du sol telle que l'on a une variété de terrains absolument unique dans la région qui permet pour les étudiants d'être un terrain d'expérimentation absolument exceptionnel. Grignon, c'est, je vous le disais, une zone avec une faune particulière, des espèces protégées, des carrières, des faluns. Il y a à chaque coin du parc des merveilles patrimoniales.
J'imagine que quel que soit l'acheteur de ce que vous considérez, ce que vous décrivez comme un jardin d'Éden, quel que soit l'acheteur, il ne pourra pas faire n'importe quoi. Je ne sais pas que dit par exemple le plan local d'urbanisme à ce sujet, Sophie Sauter.
Alors un plan local d'urbanisme peut se modifier. Donc ce n'est pas une garantie sur la protection du patrimoine, qu'il soit bâti ou environnemental. Le patrimoine bâti, lui, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est vrai que l'architecte des bâtiments de France a son mot à dire pour toute modification qui serait envisagée. Par contre, la zone dont vous a parlé Frédéric, naturelle, d'intérêt écologique, faunistique et floristique, n'est pas opposable. C'est-à-dire que c'est une protection, mais qu'on peut transgresser. De la même façon, la Falunière, pour le moment, qui a plus de 40 millions d'années, qui est un site géologique exceptionnel, n'a pas de protection particulière non plus. On peut faire beaucoup de choses à Grignon et saccager vraiment le site.
On peut d'autant plus le faire, sans faire de mauvais esprit, quand on s'appelle le Qatar et qu'on est riche à millions et qu'on peut donc proposer à un État qui est dans une période de disette économique eh bien d'apporter un certain nombre de capitaux qui sont les bienvenus. Donc il est clair que dans cette affaire, nous avons face à nous un acheteur qui n'est pas un acheteur anodin. Et que par conséquent, nous avons la conviction que le débat n'est pas un débat qui est mené d'une façon anodine.
C'est ici, Didier Merle, au bout du chemin, la Falunière.
C'est effectivement au bout de ce chemin que commence l'enceinte de la Falunière. Et si on trouve des barbelés ici, c'est pour une raison quand même précise. C'est que bien souvent, on a des visites inopportunes. Des gens qui veulent encore chercher ces belles coquilles de Grignon.
C'est Zlatan qui vient en repérage ?
Zlatan, ben, peut-être, il ne s'est pas manifesté, mais sait-on jamais. Voilà, nous arrivons dans l'enceinte de la Falunière. Et voici la coupe géologique qu'expose la Falunière. Donc ici, on pourrait dire, en fait, 45 millions d'années nous contemplent.
Alors, Didier Merle, est-ce qu'avant tout, on peut expliquer ce que c'est qu'une Falunière où vous avez travaillé pendant de nombreuses années en tant que paléontologue?
Voilà. Alors la Falunière, elle provient du mot falun. Donc les falins, c'est des sables avec du calcaire. On les connaît beaucoup plus en Touraine, sous le nom de la mer des falins. Et grossièrement, si on veut bien simplifier, ben, ce sont des sables avec des coquillages. Une falinière, par définition, c'est un endroit où on va trouver des fossiles. Donc, en l'occurrence ici, ce sont des coquillages. Donc, vous allez pouvoir les voir. Hein, et ils racontent tous une histoire hein, que le paléontologue, lui, évidemment, son travail, c'est de le raconter. Donc, vous voyez ici, hein, vous avez un petit gastéropode. Donc quand on sait un peu décrypter les choses, on s'aperçoit que bah, ce gastéropode, bon, c'était une turritelle, c'était un fouisseur. On en retrouve actuellement sous la mer. Et on voit qu'elle est morte, en fait, eh bien, d'un petit coup, ici. Hein, probablement un crustacé qui l'aurait attaqué et qui l'aurait empêché de survivre. Et comme vous voyez, une chose qui est importante dans ce gisement, et c'est pour ça que ce gisement aussi a un grand intérêt, vous pouvez constater que cette coquille, elle est totalement... luisante. Elle est luisante, pourquoi ? Parce qu'elle est extrêmement bien conservée. Hein, c'est-à-dire qu'elle est mieux conservée que certaines coquilles qu'on peut trouver sur une plage.
Donc on comprend bien l'importance de ce lieu pour tous les travaux scientifiques qui ont dû être menés ici depuis des décennies, en fait.
Depuis des décennies, oui. Même, on pourrait même dire depuis plusieurs siècles. Puisque les premiers travaux qui ont commencé sont ceux de Jean-Baptiste de Monet de Lamarck. Et il a été initié par quelqu'un qui s'appelait Bruguière, et lui, il avait publié des travaux en 1792. On imagine ces gens qui étaient au 18e, au 19e, qui allaient là, qui, avec les connaissances de l'époque, commençaient à comprendre scientifiquement un peu ce que c'était que la géographie ancienne, c'est-à-dire la géographie du temps profond, c'est-à-dire des choses qui se sont passées il y a des millions d'années. Et Lamarck l'avait remarqué, il a dit « mais les échelles de temps sont trop courtes pour imaginer des phénomènes comme ça, donc il faut avoir des échelles de temps beaucoup plus longues dans nos réflexions ».
Alors on est ici, Didier Merle, dans un vrai centre d'entraînement de la paléontologie. Vous y avez exercé plusieurs années, toute votre carrière même sans doute.
Une bonne partie, oui.
J'imagine que c'est un lieu qui est protégé et qui, en cas de vente de ces terrains par l'État, serait sauvegardé et continuerait à alimenter la recherche scientifique et les travaux scientifiques.
Alors, bien, il y a des choses qu'il ne faut pas imaginer. Hein, parce que bon, nous, pendant très longtemps, en fait, on a imaginé que, étant donné qu'on était dans l'enceinte de l'État, et que l'État sponsorise la recherche, crée des commissions pour protéger le patrimoine, n'aurait pas l'intention de vendre son patrimoine et de le vendre à des privés qui vont peut-être être beaucoup moins intéressés par les choses. Mais il n'y a pas de protection juridique pour ce site.
Bon, Didier Merle, vous qui comptez en millions d'années quand vous travaillez comme ça ici dans cette falunière de Grignon, est-ce que vous êtes sensible aux millions d'euros que le PSG voudrait débourser pour s'emporter acquéreur ?
On est toujours sensible aux millions d'euros comme on est sensible aux millions d'années. Si les millions d'euros, ça pouvait compenser les millions d'années, ça serait bien. Mais bon, c'est l'avenir qui nous le dira. On espère que ça ne soit pas en millions d'années. Voilà.
Frédéric Delaméa, est-ce qu'on a une idée du prix que pourrait avancer le Qatar pour être l'acquéreur de ce terrain ?
On a évoqué un chiffre compris entre 35 et 50 millions d'euros et des investissements de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros pour la construction du centre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la position d'un certain nombre de défenseurs du projet, à commencer par le maire de la commune, c'est de dire « mais vous savez, ils vont venir ici ». Mais ils vont pas démolir, ils vont pas abîmer, ils vont pas construire, ils vont faire quelque chose de très discret. Moi, je demande à ce qu'on réfléchisse à ce qu'on fait avec 200 millions d'euros et qu'on essaie d'imaginer ce que donnerait Grignon une fois passé le PSG et le Qatar.
Il y aura peut-être quelques gros travaux à faire parce que les terrains sont quand même en pente. Je ne sais pas si c'est très pratique pour faire des terrains de football.
Non seulement il faudrait décaisser, remblayer, ce qui pose d'énormes problèmes parce qu'on est sur des zones de carrière, mais il faudrait également protéger, puisque les gens qui viendraient ici sont des gens qui ne sont pas n'importe quel sportif, ce sont des stars. Ce qui veut dire que le petit mur de pierre qui a été construit par le marquis de Grignon, qui fait 7 km et qui entoure le château, eh bien, il faudrait le remplacer par quoi ? Par une palissade, par un mur d'enceinte. Il suffit d'aller voir à Saint-Germain-en-Laye aujourd'hui comment ça se présente pour imaginer ce que serait Grignon demain avec le PSG.
J'imagine cependant, Sophie Sauteur, qu'une telle installation ici à Grignon, ça apporterait à terme des recettes importantes pour les communes concernées.
Oui, certainement. Je crois avoir lu que pour Saint-Germain-en-Laye, c'était 500 000 euros.
Et Saint-Germain-en-Laye, où se trouve aujourd'hui le centre d'entraînement du PSG.
Mais je pense que quand on est élu, on doit avoir une vision différente de l'aménagement du territoire. Il y a des valeurs qu'on défend avant de voir les intérêts financiers. Pour moi, l'arrivée du PSG à Grignon, c'est contraire aux valeurs que doivent défendre les élus du territoire.
L'État a investi depuis 2001 entre 15 et 20 millions d'euros. On a ici des laboratoires pour l'INRA notamment, qui sont à la pointe de la modernité. On a un logement pour les étudiants qui a, je crois, environ 350 lits, parfaitement aux normes. Tout ça, c'est de l'argent public qui a été investi et qui serait purement et simplement gâché si c'était racheté par le PSG.
Alors vous appelez collectif pour le futur du site de Grignon, mais alors quel futur vous lui imaginez à ce site ?
Un futur qui soit totalement lié à son passé, c'est-à-dire en lien avec la nature, la recherche agronomique, la formation, la diffusion du savoir. De faire de Grignon un site post-COP21 qui serait une ruche d'activité dans toutes les directions possibles en termes d'agroécologie pour diffuser le savoir et pour permettre à Grignon de continuer à vivre pour son passé.
Sur la route des grands chantiers du foot, nous en parlons ce soir avec nos deux invités. D'abord ici, à la Maison de la Radio, Étienne Moati, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'équipe, merci beaucoup d'être avec nous, avec en liaison depuis les studios de France Bleu Touraine. À Tours donc, Christophe Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien président et actionnaire de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004. Et c'est ainsi que je vous ai présenté tout à l'heure, en disant aussi que vous étiez aujourd'hui adjoint à la mairie de Tours, chargé notamment du tourisme. Je n'ai pas précisé que vous étiez aussi ancien journaliste et surtout directeur général de Sport 5. À ce titre, vous avez participé de 2006 à 2011 à la construction de différents stades et notamment de certains grands stades dont il a été beaucoup question dans l'actualité à l'approche de l'Euro 2016, notamment celui de Lyon qui a été inauguré en janvier. Voilà, donc merci à vous deux d'avoir été avec nous. Avant d'évoquer en général les infrastructures des clubs de foot et les moyens qu'ils se donnent pour faire souvent et toujours plus grand, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce projet du PSG et les réticences qu'il a suscité. Ce centre d'entraînement dans cet écrin de Grignon, 300 hectares de prairies et de champs de colza, un château Louis XIII, Étienne Moitié, est-ce que c'est pas précisément le château Louis XIII et le côté patrimoine qui a peut-être attiré le fonds d'investissement qatari, propriétaire du club?
Je suis pas persuadé, c'est plutôt l'espace qui est disponible. On mesure à l'écoute de ce reportage toute la difficulté pour les clubs de football de faire des infrastructures, parce que là on parle pas de la construction d'un stade, on parle de la construction d'un centre d'entraînement avec des terrains de football, donc en plein air pour la plupart. A priori, pour ceux qui aiment ça, c'est plutôt joli. En tout cas, ça dénature pas complètement donc les sites. Bien sûr, je comprends tout à fait donc les riverains et les gens qui sont intervenus. Forcément, on aime garder ce qu'on a de la manière dont c'est depuis 10, 20, 30, 100 ans ou parfois plus. Maintenant, on mesure la difficulté pour des clubs de foot d'essayer de faire quelque chose. Évidemment, tout ce que fait le Qatar, c'est forcément suspect. Et les moyens qu'ils mettent, évidemment, dans ce qu'ils font, forcément, en font des choses extrêmement importantes. Maintenant, moi, je considère qu'il faut peut-être trouver des solutions et qu'elles doivent exister dans ce dossier-là comme dans d'autres.
Christophe Bouchet, c'est vrai que je tiens à cette histoire de château. Je trouve que ça fait très club anglais, comme si le Qatar voulait aussi s'offrir des lettres de noblesse en investissant dans le foot en France.
Oui, contrairement à Étienne Moitié, je pense qu'effectivement le château peut jouer un rôle, c'est-à-dire le côté patrimonial français peut attirer les Qataris, et d'autant qu'il y a plusieurs clubs qui sont installés dans des châteaux, notamment en France, je pense à Bordeaux, avec le château du Hayam, je pense que c'est pas dans un château, mais à Lille aussi, qui s'est installé dans une ancienne ferme. Donc il y a un côté patrimonial qui certainement séduit les gens. Après le reportage que vous avez passé, vous auriez pu le passer sur beaucoup de choses. Là, on parle du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors évidemment, c'est extrêmement médiatique, avec les Qataris derrière. Vous auriez pu faire le même reportage aussi sur le passage d'une route, d'une autoroute ou de n'importe quelle infrastructure.
On voit bien les grands projets.
Qu'il y a un sujet qu'on connaît bien dans les territoires où les gens sont extrêmement, mais on peut pas le, c'est pas un reproche, c'est un constat, hein, où les gens sont extrêmement conservateurs et qu'ils trouvent toujours des moyens de dire que leur territoire, que leur terroir est unique et recèle des valeurs invraisemblables. Bon, c'est comme ça, la vie est ainsi faite, ça va certainement encourager le PSG en tous les cas à avoir un projet, si ça se fait sur ce site-là, à avoir un projet respectueux des habitants et respectueux du terroir.
Respectueux, peut-être va-t-il y être contraint d'ailleurs. Étienne Moitié, je ne sais pas ce que représente pour un club comme le PSG 35 millions d'euros, je ne sais pas combien d'Ibrahimovic on peut mettre, peut-être un seul par mois, enfin je veux dire c'est pas grand-chose, 35 millions
d'euros pour un club comme le Paris Saint-Germain, donc c'est moins de 10% de son budget annuel qui est de l'ordre de 500 millions d'euros, donc forcément c'est pas grand-chose, et quand on a un actionnaire qui s'appelle le Qatar, c'est pas grand-chose. Maintenant évidemment à l'échelle de ce village, c'est beaucoup d'argent, et ce que va apporter sûrement donc le club, et c'est pour ça que si je le comprends bien, les élus sont plutôt favorables à cette solution-là, forcément c'est un apport pour les municipalités.
35 à 50 millions d'euros donc pour l'achat du terrain, mais si l'on en croit donc Frédéric Delaméa, 200 à 300 millions d'euros de travaux, notamment de terrassement pour mettre les terrains d'aplomb et en faire des terrains de foot à proprement parler. Là, ça devient sérieux quand même, 200 à 300 millions. On imagine que le PSG quand même aura bien pesé son affaire, pesé le pour et le contre. vous avez des informations sur l'endroit où ils voudraient réellement s'implanter ?
Ben, ils ont été beaucoup baladés parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. C'est un État donc, qui a beaucoup de rapports diplomatiques avec la France. Donc on les imagine capables de tout, du pire souvent. Maintenant, ils ont beaucoup de difficultés sur ce dossier-là parce qu'on les balade un peu partout. Ils ont essuyé énormément de refus. Ils sont là depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. Ils ont toujours eu, dès le départ, l'ambition d'avoir un nouveau centre d'entraînement extrêmement performant et tout neuf. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas trouvé le terrain où le faire.
Christophe Boucher, ça veut dire quoi vouloir avoir absolument un centre d'entraînement tout neuf et performant? Je veux dire, quand on parle de rivaliser avec les plus grands centres européens du même type, ça rapporte quoi un centre d'entraînement tout neuf, justement?
D'abord, ça fait partie aujourd'hui de la panoplie du grand club. Vous savez, les clubs comme l'industrie automobile ou autre, ils aiment bien suivre ce que font les autres. On a dit que dans la panoplie d'un grand club, il y avait forcément un centre de formation qui était beau, grand, luxueux, etc. Donc le PSG est en train de suivre ce modèle. Ça avait commencé dans les années 80-90 avec Milan qui était la référence, et puis après tout le monde s'est mis à faire des centres de formation. Ça dit, pour être plus sérieux, il y a aussi le fait qu'on peut former au Paris Saint-Germain des joueurs, et que l'aspect de la formation est important, parce que un joueur de football, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça coûte très cher, donc autant le former. Donc on voit bien le but du Paris Saint-Germain. Alors on peut aussi, il y a plusieurs manières de former. Il y a des clubs qui forment des très jeunes joueurs, Barcelone par exemple, qui achètent des très jeunes joueurs, même si c'est interdit, et puis qui les forment tout au long de leur carrière. Et puis il y a d'autres clubs désormais comme Manchester qui vont chercher plutôt des joueurs qui ont été formés ailleurs, beaucoup en France d'ailleurs, qui les prennent plutôt entre 17 et 19 ans, qu'en prennent par poignée, en se disant il y en a bien dans le lot qui va réussir et ça me coûtera toujours moins cher
que de recruter
une immense star. Donc voilà, il y a l'aspect reconnaissance qui est très important, je pense, pour le Paris Saint-Germain et les Qataris. Très important pour les Qataris parce qu'ils ont quand même beaucoup de mal à s'imposer dans le milieu du football parce que, pour diverses raisons que tout le monde peut imaginer. C'est aussi important pour le PSG qui a lui aussi du mal un peu à s'implanter dans le cercle des grands clubs européens. Donc tout ça, évidemment, c'est à la fois une nécessité professionnelle, une reconnaissance et une problématique d'image.
Étienne Moitié, on a bien compris qu'un centre de formation, ça pouvait être aussi un capital, mais est-ce que les clubs français sont nombreux aujourd'hui à avoir des joueurs qui sont issus vraiment de leur propre centre de formation ?
Mais d'abord, il faut ajouter à ce que vient de dire Christophe Boucher, c'est qu'il y a d'abord une obligation légale pour le Paris Saint-Germain. S'ils font ça, c'est parce que aujourd'hui, donc l'UEFA, donc qui est l'organisateur des compétitions européennes, oblige les clubs qui participent à la Ligue des Champions d'avoir un certain nombre de joueurs qui sont formés dans votre club. Donc le Paris Saint-Germain, s'il veut continuer à exister, s'il veut continuer à rêver de remporter cette compétition, il faut qu'il ait des joueurs formés au Paris Saint-Germain. C'est aussi et surtout pour ça qu'il développe ce projet-là. Plus globalement, les clubs français, et Christophe le sait bien, ils ont l'obligation d'avoir des centres de formation parce qu'aujourd'hui, la France, c'est le centre de formation de tous les pays européens. C'est-à-dire que les clubs français sont déjà en très lourd déficit. S'ils n'avaient pas les ventes de joueurs qu'ils ont formés, bah, ils seraient en dépôt de bilan aujourd'hui. Donc, c'est une obligation pour tous les clubs français de miser et de continuer de miser sur cette formation parce que c'est avec ça qu'ils subsistent.
Alors, depuis le début de cette émission et en réaction donc à ce projet du Paris Saint-Germain d'installer son centre d'entraînement et de formation en région parisienne, on parle beaucoup de ces centres donc d'entraînement et de formation, mais l'euro approchant, la plupart des clubs ont d'abord voulu mettre leur argent, ou l'argent qu'ils n'ont pas, ça c'est autre chose, on en parlera tout à l'heure, dans des stades, que ce soit pour les rénover ou pour en construire de nouveaux. Il y a pas nécessairement d'ailleurs de lien de cause à effet entre l'Euro 2016 et les nouveaux stades. Christophe Boucher, est-ce que l'État est partie prenante dans la construction de ces stades ? Est-ce que l'État a mis de l'argent parce que l'Euro est une compétition européenne et qu'il faut l'assurer ?
Oui, enfin l'État, en tous les cas les Français, puisque en fait qui a construit les stades à l'exception de Lyon, ce sont les collectivités. Ce sont les collectivités qui construisent les stades avec l'aide de l'État. Il y a eu une aide de l'État sur la construction de chacun des stades. Il y a eu une aide globale qui a été ventilée vers les différents stades. Mais c'est un particularisme français. Les stades appartiennent aux collectivités locales. Et c'est les collectivités locales qui ont investi, soit elles-mêmes, soit en passant par un partenariat public-privé, qui est un système qui est assez lourd et coûteux, mais c'est souvent ce qui s'est fait, notamment à Nice, à Marseille, à Bordeaux, où on passe en PPP. Mais s'il y a eu une simple rénovation, quand je dis simple, c'est quelquefois quelques dizaines de millions d'euros, hein, tout de même, comme à Saint-Étienne ou comme à Lens, c'est aussi les collectivités qui paient. Rarement les clubs paient l'utilisation, enfin la construction du stade. En fait, ils payent l'utilisation du stade. Mais si les clubs avaient dû faire les stades qui seront prêts pour l'Euro, ils n'y seraient jamais arrivés.
Mais alors, d'ailleurs, pourquoi les collectivités locales sont-elles toujours partie prenante et contribuent toujours à l'investissement de départ? Qu'est-ce que ça leur rapporte à elles?
D'abord, elles sont obligées parce qu'elles sont propriétaires des stades. Donc, ou elles les vendent, et pour ça, il faut trouver un acheteur, ou elles sont bien obligées de les rénover pour qu'ils puissent continuer de fonctionner. Mais évidemment, c'est les collectivités qui payent la plupart des stades, ça on vient de le dire. Il y a le stade de Lyon qui est le seul stade privé. Mais même ce stade-là, il ne faut pas croire que ça coûte rien à la collectivité, parce qu'il y a la construction du stade qui est prise en charge par Jean-Michel Aulas et tous ceux qui ont investi dans ce stade, mais il y a toutes les infrastructures autour, et c'est plusieurs centaines de millions d'euros, ça on n'en parle jamais, donc ils vont être payés par la collectivité, et qui pour le coup vont rapporter donc quelque chose à un actionnaire privé.
Ça, on peut en parler avec vous, Christophe Boucher, parce qu'en tant que directeur général de Sportfive, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez travaillé avec l'Olympique Lyonnais et avec Jean-Michel Aulas, donc sur cette toute nouvelle enceinte à plus de 400 millions d'euros, le premier stade 100% privé. Comment les autres clubs ont observé l'affaire? Est-ce que c'est une initiative qui leur donne plutôt envie? En tout cas, tout le monde ne peut pas se le permettre, a priori.
Alors, les autres clubs ont regardé ça avec un œil un peu goguenard, à vrai dire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, finalement, qui ont une stratégie à long terme. On dit souvent que le football français est en retard sur les autres championnats. Mais les autres championnats, ils ont surtout une qualité, c'est qu'ils souvent ils ont une vision à long terme. En France, les clubs, on peut pas dire qu'ils aient une vision à long terme. L'un des seuls qui a une vision à long terme, c'est Jean-Michel Aulas à Lyon. Il a décidé de faire un stade privé. Il est parti sur un modèle extrêmement ambitieux et extrêmement dangereux. Donc les autres clubs l'ont laissé faire, se réfugiant derrière divers problèmes. Mais je vais vous donner un autre exemple pour bien comprendre. L'Olympique de Marseille, que je connais bien, n'a jamais eu la main sur le stade. Non pas parce qu'il ne voulait pas l'avoir, mais parce que le maire de Marseille a toujours refusé. Le maire de Marseille a dit le stade Vélodrome en l'occurrence, c'est un patrimoine de la ville. Donc je ne le céderai pas. Et comme en plus il a été prêt lui aussi à mettre entre 300 et 400 millions d'euros dans la rénovation, enfin dans la reconstruction quasi totale de ce stade, le club n'a eu rien à dire. Donc si vous voulez, les autres clubs, ils ont regardé l'affaire, mais souvent ils n'ont pas la main. En fait, ils n'ont pas réussi à avoir la main sur leur stade. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait à l'ensemble du système. Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, vient de publier un rapport sur ce sujet-là pour essayer de donner la gestion des stades à des privés et évidemment plus aux clubs. Mais c'est un vrai sujet parce que c'est une question. Je fais un peu long, mais c'est une question d'histoire aussi. Vous savez, en France, les stades ont été aux municipalités très rapidement. En Angleterre, quand vous montiez une association, vous construisiez aussi votre stade. Ce pli-là n'a pas été pris entre 1880 et 1950. Et donc, il s'est fait qu'en Angleterre, les clubs ont toujours été propriétaires de leur stade, ou à peu près, alors qu'en France, ils ne l'ont jamais été. Donc, il a fallu une initiative comme celle de Jean-Michel Aulas, que moi, je pensais excellente au départ. J'ai un peu modifié mon avis, parce que je pense qu'elle est excellente, mais extrêmement coûteuse et extrêmement dangereuse.
Jean-Michel Aulas qui a par ailleurs promis de poursuivre en justice tous ceux qui avaient déposé des recours contre le parc olympique lyonnais. Je ne sais pas si là aussi les présidents des clubs prendront exemple sur sa politique, on va dire catégorique en la matière. Étienne Moati, cette gestion entre collectivités qui sont propriétaires des stades et les équipes, les clubs qui en sont locataires, ça génère quand même souvent des conflits. Et notamment, Christophe Boucher parlait de Marseille. C'est quand même très souvent que le club de Marseille demande à Jean-Claude Gaudin de baisser le loyer qu'il ne peut plus assurer.
Ça génère beaucoup de conflits parce que donc les collectivités, elles sont propriétaires des stades et elles en assurent la construction ou la rénovation, ce qui coûte très cher donc à l'ensemble de la collectivité. Et les clubs qui les utilisent, ça leur coûte finalement plus d'argent parce que les loyers montent et ils n'ont aucune ressource ou presque avec ces stades-là. Les seuls à qui ça rapporte les stades en France, c'est les entreprises de BTP. et ça leur rapporte des milliards, tout simplement parce que d'abord elles construisent les stades et
ça,
en plus
c'est dans le cadre des partenariats public-privés.
Et derrière, qu'est-ce qu'elles font? Elles organisent donc la concession du stade, c'est-à-dire qu'elles en sont ensuite les gestionnaires et donc elles continuent de gagner donc de l'argent toute leur vie avec l'argent public. C'est un véritable scandale et on le voit avec le Stade de France qui a été construit donc pour la Coupe du Monde 98 qu'on a remporté brillamment. Et depuis cette date-là, c'est un stade qui a coûté des dizaines, des centaines de millions d'euros à la collectivité parce qu'il n'y a pas de club résident et il y a un contrat absolument scandaleux qui a été signé par l'État avec les concessionnaires du Stade de France qui fait que tous les ans, on paye donc une redevance donc pour l'absence de club résident. Et puis aussi, les fédérations qui sont des associations qui essaient de faire jouer les équipes de France de football, de rugby, etc. dans ce stade, quand elles y vont, le contrat est tellement scandaleux que ça leur coûte de l'argent.
Christophe Bouchet, le partenariat public-privé, vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de très lourd. Et notamment, ce que j'ai appris en travaillant sur cette émission, c'est que dans un partenariat public-privé, c'est la ville qui prend en charge l'intégralité du risque sportif. D'où la situation qu'on a pu avoir au Mans, notamment après la relégation en 2010 et la faillite en 2013. Ça a fait mal à la municipalité du Mans, mais pas du tout à Vinci.
Pas du tout, et c'est souvent malheureusement la commune, enfin je dis malheureusement parce que ça échappe aux citoyens et c'est les citoyens qui payent, donc je pense que chacun d'entre nous vaut bien payer quelque chose, mais il faut qu'il soit au courant avant, et vous avez raison avec l'exemple du Mans, ça a failli arriver, mais c'était pas un PPP, c'était un peu différent, mais ça a failli arriver à Grenoble qui a trouvé une autre solution avec le rugby, mais effectivement c'est la collectivité qui prend une grande partie, 90% dans la plupart des cas du risque sportif, c'est-à-dire qu'on explique bien à chacun, si le club est en Ligue 1, le club paie un loyer, on va dire, je crois qu'à l'OM, par exemple, c'est 4 ou 5 millions d'euros par an, sans compter quelques recettes supplémentaires qui sont liées à la billetterie. Et si l'OM, par exemple, descend en Ligue 2, ils n'en sont pas loin cette année, si l'OM descend en Ligue 2, le loyer va baisser, il va être d'1,5 million, par exemple, ou d'un million et demi, je ne sais pas ce qui a été négocié. En revanche, la ville de Marseille, elle continue à payer 14 millions d'euros à Bouygues qui a construit le stade. Alors évidemment, vous imaginez bien que la différence, qui est considérable, elle est payée non pas par le maire de la ville, mais qu'elle est payée par les citoyens, et que ce sont évidemment des sommes colossales. Vous venez prendre l'exemple du Mans, c'est la ville désormais, enfin les collectivités au sens large, qui prennent en charge les indemnités de remboursement de la construction du stade du Mans.
Mais on n'en a pas tiré les leçons de ça depuis justement l'affaire du Mans. Aucune municipalité ou collectivité a été en mesure de dire aux propriétaires des clubs d'assumer le risque sportif et que ce n'était pas à elles, collectivité publique, de le faire.
Alors, les collectivités hors le Mans ont commencé à signer leur contrat bien souvent alors que le stade du Mans venait juste d'être inauguré. Et c'était plutôt un succès puisque à l'arraché, le Mans avait réussi à rester en Ligue 1. Donc c'est vrai que c'est des contrats qui sont extrêmement longs, qui sont extrêmement lourds. Donc les contrats souvent avaient déjà été signés. Il y aurait dû avoir des alertes sur d'autres PPP parce que ce système de partenariat public-privé, il existe pour les stades, mais il existe aussi pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les lignes de chemin de fer. En ce moment, là, une ligne de chemin de fer entre Tours et Bordeaux, je la connais bien, elle coûte 7 milliards d'euros, elle est prise en compte par Vinci et c'est la SNCF, donc l'État, donc nous, qui paierons les loyers. On sait déjà que la ligne sera en déficit. Donc effectivement, Étienne Moiti l'a dit et je le rejoins sur ce sujet-là, on est dans un système scandaleux, c'est-à-dire que on va payer tous, parce que c'est nous tous qui allons payer, des loyers pour le grand bénéfice effectivement des entreprises de BTP.
Étienne Moiti, dans le cadre de l'euro, tous ces stades qui ont été soit construits, soit rénovés, je crois qu'il y en a 13 en tout, on sait combien l'ont été faits dans le cadre d'un partenariat public-privé?
Quasiment tous, c'est le fonctionnement donc du système français, donc parce que les stades appartiennent à des collectivités qui n'ont pas les moyens d'engager et qui n'ont pas souvent beaucoup d'idées donc sur comment financer donc leurs infrastructures. structure. Donc les entreprises de BTP, elles viennent comme des sauveurs et puis elles terminent surtout comme des racketteurs.
Des sauveurs aussi parce que les sommes engagées dans le cadre d'un PPP apparaissent dans les comptes des collectivités comme des dépenses de fonctionnement et donc pas d'investissement. Et donc c'est pas considéré comme de l'endettement. Sauf que c'est un endettement à retardement. Christophe Boucher, d'ailleurs, vous qui êtes aussi du côté municipal, c'est-à-dire qui êtes adjoint à la ville de Tours, c'est un sujet qui doit être souvent mis sur la table. Je ne sais pas si l'équipe de foot de Tours a aussi signé ce genre de contrat avec la ville.
Non, parce que l'équipe de football de Tours qui est en Ligue 2, elle joue dans un stade qui est un petit peu vieillissant maintenant. Il y a une tribune qui a été construite il y a deux ou trois ans pour quelques millions d'euros, mais qui a été faite sur les fonds de la mairie, des collectivités, de la communauté d'agglomération et de la région. Donc on n'a pas eu recours à un PPP. Mais je voudrais, pour sortir peut-être un peu de ce sujet qui est peut-être juridique, mais qui est douloureux. Vous disiez, mais pourquoi les villes font ça? Pourquoi les villes, finalement, font un stade? Il faut aussi dire que les villes, elles y ont un intérêt, parce que si, aujourd'hui, vous n'avez pas un stade, un grand stade, un stade qui peut accueillir l'Euro, la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de football, vous n'êtes pas une ville, entre guillemets, européenne. C'est-à-dire, une grande ville européenne, aujourd'hui, elle se mesure à la taille de sa population, à son histoire, éventuellement, et souvent le cas, à sa cathédrale, mais aussi à son stade de foot. Et si vous voulez être lisible sur une carte de France, et encore plus sur une carte d'Europe, vous devez avoir un stade. C'est aussi ça, c'est aussi un enjeu d'image, un enjeu politique. Alors, ce qu'on a sûrement mal fait, c'est de le faire par un biais de PPP, qui est un biais, comme on l'a dit et répété là plusieurs fois, qui n'est pas le bon. Mais en revanche, avoir un stade dans sa ville, il faut savoir ce qu'on veut faire de sa ville. Je pense que pour des villes, je vais prendre l'exemple de Bordeaux ou de Nice, si vous n'avez pas un stade aux normes, si vous n'avez pas un stade aux normes européennes, si vous n'avez pas un stade qui fait plus de 30 000 places, vous ne comptez pas sur l'échiquier européen. C'est peut-être plus discutable pour d'autres villes, je ne vais pas les nommer parce que ça serait peut-être désagréable pour elles, mais en revanche, pour les villes qui veulent s'afficher comme un point de fixation en France ou en Europe, avoir son stade, être capable d'organiser des événements, c'est vraiment quelque chose de très important.
Si Christophe Boucher ne veut pas les nommer, moi je peux vous demander, Étienne Moati, si des villes comme Angers ou Caen ont vraiment besoin d'enceintes de 20 000 places, est-ce que ça leur sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça peut être rentable à terme?
20 000 places à l'échelle d'un stade de football, ce n'est pas énorme.
Non, mais pour des villes comme Angers ou Caen, ils ne sont jamais vraiment pleins en fait, ça sonne un peu creux comme disent les articles de l'équipe parfois.
Ce que vient de citer Christophe Boucher, ils ne sont pas pleins non plus parce que le magnifique stade de Bordeaux qui a été réalisé est très mal terminé, en tout cas au niveau des infrastructures qu'il y a autour, donc qui ont été extrêmement mal faites. Il est très mal desservi, il n'y a pas de parking, c'est ni fait ni à faire. Il n'est pas plein du tout. Celui de Nice n'est pas plein non plus, alors que l'équipe de Nice fait une très très belle saison. C'est là toute la difficulté. Maintenant, on peut aussi considérer que le public, le foot, c'est quand même un grand sport populaire, c'est un grand spectacle populaire, et que les gens ont le droit d'être dans des stades plutôt beaux, plutôt neufs, bien installés. Ça, c'est pas non plus un luxe.
Alors voilà ce que ça peut rapporter à une ville, mais qu'est-ce que ça rapporte au club? En quoi est-ce qu'un stade, c'est un capital, un investissement qui peut rapporter? Ça crée pas des supporters, a priori.
C'est là où toute la difficulté, c'est qu'on nous a expliqué pendant des années qu'il fallait donc rénover les stades et que la France était extrêmement en retard et que c'est pour ça qu'elle était à la traîne au niveau européen en matière de football. Puis on se rend compte aujourd'hui avec la construction de tous ces nouveaux stades pour l'Euro, que finalement les clubs, c'est plus un problème qu'autre chose parce que les loyers ont très largement augmenté, la qualité du spectacle n'est pas au rendez-vous, donc le public ne vient pas, donc finalement il y a une spirale extrêmement négative, très curieusement, qui s'est créée autour de ces stades.
Christophe Boucher, je voulais prendre l'exemple de Toulouse que vous connaissez bien, par exemple le club de Toulouse qui a rénové son stade, notamment dans le cadre de l'Euro, et qui est passé de 37 000 à 33 500 sièges. Donc là, j'ai pas compris, quand j'ai vu ces chiffres, à quoi ça servait pour un club de réduire le nombre de sièges?
Non, mais ça sert pas. Alors, il faut voir le nombre des sièges. Tous les sièges dans un stade sont pas les mêmes. On va parler économie. Il y a des sièges qui vous rapportent plus que d'autres. Et notamment les sièges quand vous avez des sièges de loge, des sièges VIP, des sièges qu'on appelle business, ça vous rapporte plus. Mais vous avez plus intérêt. Qu'est-ce qui va se passer aussi pour le stade de Gerland à Lyon? dont on va diminuer la capacité pour le club de rugby. Il ne s'agit pas tant d'avoir le maximum de sièges dans un stade, il s'agit de savoir comment le stade est optimisé pour rapporter le plus d'argent à son club. Donc vous pouvez avoir, effectivement, vous pouvez réduire la capacité d'un stade, mais si vous le rendez plus intelligent, plus confortable, plus accessible, vous allez gagner plus d'argent avec. Donc voilà. Alors, il faut pas s'exonérer. Je reviens aussi sur le sujet qu'abordait la spirale négative dont parlait Étienne Moati, qui est réelle, qui existe. Elle est aussi beaucoup liée aux dirigeants du foot français en général. Parce que partout où on a rénové les stades, en Angleterre, en Allemagne, où il y a eu une grande période de rénovation pour la Coupe du Monde, en Espagne aussi, là où on a rénové les stades, il y a eu des spectateurs. Alors, le football français doit quand même regarder ce qui se passe ailleurs, doit balayer devant sa porte et savoir comment on fait venir des spectateurs dans ces stades. Et c'est vrai qu'on n'y arrive pas, c'est vrai qu'on y arrive mal. Enfin bon, c'est vrai que tout le monde, à part l'Italie, qui est un sujet un peu analogue à la France, quand vous regardez à l'extérieur, quand vous rénovez un équipement, qu'il est propre, qu'il est accessible. Alors Étienne Moati a dit qu'effectivement, il y a par exemple à Bordeaux et à Nice, il y avait des vrais problèmes d'accessibilité, c'est une réalité. Donc quand vous rénovez un équipement, théoriquement, c'est pour faire mieux. Or là, effectivement, en France, on fait toujours les choses un petit peu de façon singulière et un peu à l'envers. C'est un peu l'inverse qui se fait. Il ne faut pas juste oublier que le stade, c'est comme si vous disiez je fais un grand théâtre ou une grande salle. C'est juste un équipement. Il faut savoir comment, dans cet équipement, vous devez produire un spectacle. Vous devez produire un spectacle de qualité de façon à le remplir. Si vous avez tous les éléments, si vous avez à la fois le contenant et le contenu, la population des stades, elle va augmenter.
Elle va aussi évoluer. C'est ça aussi un des problèmes de ces stades-là, parce qu'on cite beaucoup l'Angleterre comme le modèle. C'est vrai que c'est le championnat le plus attractif au monde, et on imagine que c'est toujours un grand sport populaire, le football en Angleterre, mais plus du tout. Dans les stades en Angleterre, ils ont tous été refaits. Aujourd'hui, les prix des places absolument pharaonique. C'est autour de 100 €, donc, pour voir un match en Angleterre, à Londres par exemple. Et le public qu'il y a dans les stades anglais, c'est plus du tout donc des gens qui boivent de la bière et des ouvriers qui vont ensuite s'amuser le week-end dans les stades. C'est plus du tout ça. Vous y voyez des touristes venus du monde entier, des avions de japonais qui viennent voir des matchs, et tout ça est prévu par tour opérateur. C'est aussi comme ça que le football est en train d'évoluer. Et donc si il y a moins de personnes dans les stades, c'est aussi parce que le prix des places a très largement augmenté un peu partout.
Ça représente combien les dépenses de sécurité dans les stades? Et là, je pense à nouveau à l'Euro cette année. Combien est-ce que chaque club va mettre, ou peut-être que ce sont les municipalités, je ne sais pas d'ailleurs, mais qui vont mettre pour garantir la sécurité des spectateurs?
Pour le championnat de France, ce sont les clubs qui payent la sécurité. Ça n'a pas toujours été le cas. Et donc aujourd'hui, les clubs râlent beaucoup parce qu'on leur attribuait donc des forces de police tout à fait gratuitement pendant des dizaines d'années. Ils trouvaient ça tout à fait normal. On peut les comprendre. Maintenant, l'État facture donc la sécurité. C'est vrai que ça devient un coût extrêmement important et qui est en forte augmentation parce que les soucis de sécurité sont plus importants qu'avant.
Christophe Boucher, dans quelle mesure, c'est une question qui s'est beaucoup posée dans les tribunes de la presse ces derniers jours, dans quelle mesure les fan zones, donc ces zones où les supporters sans ticket d'entrée ou billet d'entrée pour le stade pourront se retrouver pour suivre le match, comment seront-elles sécurisées pour l'Euro?
Je crois que le Premier ministre a répondu à cette question. Les fan zones, elles seront sécurisées comme les stades. Et effectivement, il n'y a pas le choix. Mais là, on est dans un... Si je puis me permettre, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu du cadre, puisque là, on est dans un problème purement politique. La France, ça a été dit comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est communément accepté, ne peut pas se permettre de ne plus organiser l'Euro 2016. Donc aujourd'hui, l'État mettra tous les moyens possibles à sa disposition, ira chercher d'autres moyens auprès des collectivités locales pour que l'Euro 2016 ait lieu et que la fête ne soit pas réduite. C'est-à-dire réduire la fête, ou dans le stade ou dans les fan zones, c'est donner un signal négatif au monde entier et surtout aux terroristes. Donc je crois que là, on n'est pas là dans le cadre de savoir si les infrastructures sportives sont bonnes, pas bonnes, utiles, pas utiles. On est dans un problème de politique globale où là, on n'a pas le choix.
Merci beaucoup Christophe Boucher d'avoir été avec nous ce soir, ancien président de l'Olympique de Marseille, ancien coprésident du Tour Football Club, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, et puis directeur général de Sport 5, donc vous avez participé à la construction de différents stades et vous êtes aujourd'hui adjoint à la mairie de Tours, chargé du tourisme et des grands événements. Je ne sais pas si ça inclut les grands événements sportifs. A priori, le sport fait partie d'un autre portefeuille. Si, d'accord, ok, dans les municipalités. Merci Étienne Moati. On peut vous lire tous les jours dans l'équipe, j'imagine tous les jours.
Et surtout, on est obligé de travailler aujourd'hui. Hein.
Et surtout, le mois de juin arrivant, vous allez devoir travailler pour l'Euro 2016.
On travaille tout le temps, on adore ça.
Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisi au volant, copilote Sophie Bobert. Cette émission était enregistrée ce vendredi à la Maison de la Radio avec liaison avec France Bleu Touraine. À la technique, c'était Bernard Laniel. La semaine prochaine, nous serons sur la route de la justice sinistrée, selon les mots de son ministre Jean-Jacques Urvoas. Témoignage de magistrats et experts au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.